La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Jules et Edmond de Goncourt avaient respectivement 18 et 26 ans en 1848 au moment de la mort de leur mère. Leur tristesse est immense, mais cet événement fait d'eux des orphelins et marque le véritable début de leur vie de couple littéraire, l'un débutant une phrase que l'autre termine ensuite. Une vie de petit rentier au tempérament aristocratique, uniquement tournée vers l'art et la culture, comme nous l'a raconté lundi Pierre Ménard, auteur d'une biographie des Goncourt aux éditions Talendier. Leur grande œuvre, c'est sans doute leur journal, qui est aussi une comédie humaine dans le Paris de la seconde moitié du 19e siècle. Ainsi que Jean-Louis Cabanès et Éléonore Reverzy nous l'ont expliqué hier au cours d'une émission à retrouver comme toutes les autres sur franceculture.fr et sur l'appli Radio France. Et puis demain, nous nous pencherons sur le rapport à l'art et à l'esthétique des frères Goncourt. Ce sera avec Bernard Vouilloux en première partie d'une émission que nous poursuivrons ensuite sur la thématique des femmes, puisque ces deux grands misogynes leur ont paradoxalement accordé une assez grande place dans leurs écrits. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour évoquer la question du naturalisme des deux écrivains, pour parler également de leur correspondance, en particulier avec Flaubert, nous sommes en compagnie, mais à distance, de Pierre Dufieff, professeur émérite à l'Université Paris-Nanterre, éditeur des œuvres complètes des Goncourt chez Honoré Champion. Il vient de publier, avec Jean-Louis Cabanès, la biographie des frères Goncourt aux éditions Fayard, tout comme il a édité plusieurs sections de leur correspondance, certaines chez Flammarion et d'autres chez Honoré Champion. Bienvenue à tous dans la compagnie des œuvres.
Après ma mort, il sera trouvé dans ma petite armoire de boule, placée dans mon cabinet de travail, une série de cahiers portant pour titre « Journal de la vie littéraire », commencé par mon frère et moi le 2 décembre 1851. Je veux que les cahiers auxquels on joindra les feuilles volantes de l'année courante, qui seront dans un buvard placé dans un compartiment de ma bibliothèque, près de ma table de travail, soient immédiatement cachetés et déposés chez Maître Duplan, mon notaire, où ils resteront scellés 20 ans, au bout desquels ils seront remis au département des manuscrits de la Bibliothèque nationale et pourront être consultés et livrés à l'impression. Si la garde de ces volumineux manuscrits chez le notaire faisait quelques difficultés, ils seraient aussitôt remis à la Bibliothèque nationale, mais ne pourraient jamais être consultés et livrés à l'impression qu'au bout de 20 ans. Enfin, si par impossible, la Bibliothèque nationale refusait le dépôt, je demanderai à la famille Daudet de les garder jusqu'à l'expiration des 20 ans.
Bonjour Pierre Dufieff.
Bonjour.
Alors on vient d'entendre un extrait du testament d'Edmond Goncourt lu par Michel Bouquet. Il stipule les modalités de publication de son célèbre journal dont on parlait hier. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette mise en scène de la postérité qui est d'une redoutable précision ?
Mais écoutez, je compléterai cette citation du testament en évoquant, puisque c'est l'un des thèmes de l'émission d'aujourd'hui, la correspondance, puisque Edmond rajoute « Je donne et lègue également à la Bibliothèque nationale mes cartons de correspondance ou la réunion de toutes les lettres de littérateurs et d'artistes que mon frère et moi avons reçues depuis le jour de notre entrée en littérature, mais qui ne seront communiquées au public qu'en même temps que le journal. » Donc, effectivement, tout est prévu, tout est organisé. La publication du journal et la publication souhaitée de la correspondance, mais à la suite d'un certain nombre de difficultés, d'avatars, les choses seront reportées bien au-delà des 20 ans prévus, puisque le journal lui-même ne sera publié qu'en 1956, dans sa version intégrale.
Pour quelle raison, que s'est-il passé ?
Ben écoutez, ce qui s'est passé, c'est que l'Académie Goncourt, qui s'était rendu compte en lisant le journal qu'il contenait quand même un certain nombre de médisances sur les contemporains, prudemment a décidé de reporter la publication de manière assez longue, hein. Malgré des demandes, malgré des pressions, hein, Lucien Descaves, notamment, était particulièrement attentif à reporter cette publication pour éviter les procès, pour éviter les difficultés, pour éviter de blesser les survivants. Et la correspondance a souffert, hein, d'ailleurs, dans cette situation, hein, d'une publication qui a été retardée, elle également, puisque les héritiers de Zola ont été obligés de demander des autorisations particulières pour publier quelques-unes des lettres que Zola avait adressées à Edmond Goncourt.
Alors vous expliquez à l'instant, Pierre Dufieff, que le journal est associé d'une certaine façon à la correspondance. Est-ce qu'il est intéressant de lire finalement les deux un petit peu en parallèle, sachant qu'il y a même des lettres qui sont insérées dans le journal, un peu comme si les Goncourt avaient voulu garantir au fond leur conservation ?
Oui, alors je dirais qu'il y a effectivement de temps en temps des lettres insérées dans le journal. De temps en temps, il y a des lettres qui sont détruites et qu'Edmond insère malgré tout dans le journal. Je pense à une lettre d'Alphonse Daudet, dans laquelle Daudet, qui est en proie aux maux de la fin de sa vie et qui est sous morphine, attaque Edmond et lui dit des choses tout à fait méchantes. Edmond note la lettre, mais il ne la conserve pas dans ses dossiers. Le journal et la correspondance, effectivement, doivent être envisagés, me semble-t-il, de manière tout à fait complémentaire. Et si l'on lit la correspondance, si l'on parcourt en tout cas un certain nombre de correspondances importantes des Goncourt, parce que c'est une énorme masse, on se rend compte que les Goncourt ont deux visages. Ils ont un visage qui est celui des diaristes, je reprendrai l'expression très utilisée à leur propos, ces infréquentables Goncourt, et de l'autre côté, il y a un autre visage, qui est le visage de personnages sensibles, affectifs, capable non pas de causticité, mais capable d'humour, capable de gaieté, capable de neurasthénie aussi. Et c'est celui-là que nous donne la correspondance souvent, et notamment la correspondance dont on reparlera, de Flaubert et de Goncourt.
Bien sûr, on en reparlera. Alors, énorme masse de lettres. Il faut dire qu'il y a 264 correspondants dénombrés jusqu'en 1870. Et puis ensuite, le champ s'élargit jusqu'à 1425 correspondants. À qui écrivent-ils? Finalement, reçoivent-ils aussi des lettres de lecteurs? Y répondent-ils fréquemment?
Oui, alors je dirais que la correspondance constitue effectivement une énorme masse. Ce sont ces 30 volumes qui sont cités. Et cette correspondance est intéressante dans la mesure où elle permet de reconstituer des réseaux, hein, des réseaux complémentaires de ceux du journal. Vous citiez des chiffres, effectivement. Parmi les personnes présentes dans la correspondance et dans le journal, nous constatons qu'un certain nombre sont totalement absents du journal. Et les correspondants en question sont la moitié, hein, des correspondants n'apparaît jamais dans les notes des diaristes. Et les grands absents sont notamment des journalistes, des professeurs, de jeunes écrivains. Hein, le journal conserve plutôt la célébrité et la correspondance conserve à la fois la célébrité et l'anonymat.
Alors quel est un peu...
Donc elle nous donne une vision.
Quel est, pardon, le ton de ces lettres? Elles sont peut-être assez différentes en fonction de leur auteur, si c'est Jules ou si c'est Edmond, mais est-ce qu'on peut essayer de caractériser un petit peu l'effet, en tout cas, que leur lecture nous laisse?
Alors je dirais que la lettre varie en fonction de beaucoup de choses. Elle varie en fonction à la fois de l'auteur, hein, si c'est Jules ou si c'est Edmond, le style est différent. Elle varie aussi beaucoup en fonction du destinataire. Je pense qu'une correspondance, c'est, je dirais, une interaction, une porosité souvent, une identité qui se construit par rapport à un destinataire. C'est une identité toujours qui se constitue dans la communication. Edmond Goncourt et Jules ne sont pas les mêmes avec Flaubert que Edmond le sera ensuite avec Alphonse Daudet. Il y a donc une sorte de diversité très grande, hein, de l'écriture. Il y a un mimétisme de Flaubert, il y a un mimétisme de Daudet, hein, qui amène des écritures tout à fait variées. Alors ce qui pourrait caractériser la correspondance des Goncourt, en tout cas celle de Jules, qui à mon avis est une correspondance de bien meilleure qualité, Edmond écrit surtout des billets, il est plus laconique, la correspondance de Jules, c'est, je dirais, ce qui a marqué la première période de l'écriture romanesque des Goncourt, c'est la fantaisie. Hein, c'est une créativité verbale, c'est une capacité ludique. La lettre est constamment jeu, sourire, plaisanterie. Elle est aussi chose vue. Et je pense qu'il y a une gaieté fondamentale, surtout dans les lettres de jeunesse, hein, qui est très caractéristique de la manière de Jules. Une parole en liberté.
Et puis il y a donc les lettres à Flaubert alors.
Oui, il y a les lettres à Flaubert qui constituent, je dirais, un massif relativement important, hein, puisque la correspondance entre les Goncourt et Flaubert a duré 20 ans, hein, entre 1860 et 1880, hein, la période, le moment de la mort de Flaubert. Et cette correspondance a été conservée totalement en ce qui concerne les lettres de Flaubert, puisqu'elles sont dans les archives Goncourt, de manière moins complète en ce qui concerne les lettres d'Edmond de Goncourt, dans la mesure où Flaubert était beaucoup moins attentif peut-être à conserver ses lettres. Bon, les lettres de Goncourt sont à la Bibliothèque nationale, et celles de Flaubert étaient au fond Lovin-Jules, qui est maintenant à l'Institut de France.
Alors pour entamer ce chapitre de la relation entre les frères Goncourt et Flaubert, je vous propose d'écouter non pas un extrait de lettre, mais un extrait de discours qui date du 23 novembre 1890. C'est un discours d'Edmond de Goncourt à l'occasion de l'érection d'une statue à la mémoire de l'auteur de Madame Bovary.
Après notre grand Balzac, le père et le maître à nous tous, Flaubert a été l'inventeur d'une réalité, peut-être aussi intense que celle de son précurseur, et incontestablement d'une réalité plus artiste, d'une réalité qu'on dirait obtenue comme par un objectif perfectionné, d'une réalité qu'on pourrait définir, d'après nature, rigoureuse, rendue par la prose d'un poète. Et pour les êtres dont Flaubert a peuplé le monde de ses livres, ce monde fictif à l'apparence réelle, l'auteur s'est trouvé posséder cette faculté créatrice, donnée seulement à quelques-uns, la faculté de les créer, un peu à l'instar de Dieu. Oui, de laisser après lui des hommes et des femmes qui ne seront plus, pour les vivants des siècles à venir, des personnages de livres, mais bien véritablement des morts, dont on serait tenté de rechercher une trace matérielle de leur passage sur la terre. Et il me semble qu'un jour, en ce cimetière aux portes de la ville où notre ami repose, quelques lecteurs, encore sous hallucination attendrie et pieuse de sa lecture, cherchera distraitement, aux alentours de la tombe de l'illustre écrivain, la pierre de Madame Bovary.
Lecture par Michael Cohen. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire déjà pour commencer, Pierre Dufieff, sur leur relation? Je crois qu'ils se sont rencontrés en 1857 pour la première fois dans les bureaux d'une revue qui s'appelait L'Artiste.
Oui, tout à fait. C'était une revue qui était dans le 9e, qui était rue Lafitte, et où se retrouvaient les écrivains, et qui à l'époque était dirigée par Théophile Gautier, qui va servir d'intermédiaire entre les Goncourt et Flaubert. Donc ils font connaissance dans les bureaux de cette revue où Edmond et Jules avaient publié, commencé à publier. Et je dirais que ces librairies font partie des lieux de convivialité, hein, où les écrivains se retrouvent. Ils se retrouveront aussi lors de repas traditionnels, rituels, mais les bureaux de revue sont tout à fait importants. Ils vont se retrouver aussi à la librairie Nouvelle, hein, qui est un haut lieu de convivialité pour les auteurs. La librairie n'est pas seulement un lieu où l'on vend, où l'on achète, la revue non plus. Hein, ce sont des lieux où l'on parle, où l'on échange, où l'on se retrouve, en quelque sorte, non pas des salons, enfin des lieux de convivialité pour les artistes. Mmh.
Et ensuite, alors comment cette relation va-t-elle évoluer?
Alors la relation évolue vers la sympathie, puisque en 1860, Edmond et Jules vont inviter Flaubert dans leur appartement rue Saint-Georges, et c'est le premier dîner qu'ils vont partager, et c'est l'occasion d'ailleurs pour eux, dans le journal, d'écrire une belle page sur Flaubert. Et puis la relation va se poursuivre, hein, de manière très régulière, assez intense dans les années 1860-1865, intense ensuite au moment de la mort de Jules, puis elle se poursuivra après la mort de Jules, jusqu'à la mort de Flaubert, mais je dirais là de manière peut-être un petit peu plus épisodique. Alors cette relation, elle est médiatisée par un certain nombre d'intermédiaires. Elle est à la fois directe, hein, puisque bon, ils vont constituer une sorte de trio, et il y aura véritablement, on le voit dans les lettres, on le lit dans les lettres, il y a une affection profonde qui va se créer, s'établir entre Flaubert et les deux frères Goncourt.
Flaubert qui appelle les frères Goncourt les bichons.
Oui, absolument. Alors c'est une appellation qui va être conservée. Les bichons étaient des petits chiens, à la tête ronde et plate et avec une belle fourrure. Et Flaubert aimait appeler ses amis. Hein. C'est pas une appellation qui est propre au Goncourt. Il appelle aussi mon bichon, Georges Feydeau, etc. Mais l'appellation aura beaucoup de succès à propos des Goncourt, puisque la princesse Mathilde elle-même l'utilisera à leur propos.
Alors, ce que vous disiez sur la librairie me fait penser qu'il y a tout un tas de rites qui vont scander un petit peu la relation entre Flaubert et ces bichons-là. Et ces rites ont en effet leur lieu, la librairie, mais aussi, et je dirais peut-être même surtout, un certain nombre de dîners. Il y avait plusieurs dîners qui étaient organisés ici et là dans des restaurants. À quel point est-ce que c'était important cette sociabilité des dîners, pour cette relation-là dont on parle, mais peut-être un petit peu de manière plus générale pour les écrivains du 19e.
Oui, alors on s'aperçoit effectivement que ces écrivains qui prônent le cénobitisme, le repli, le retrait, finalement, on pratiquait volontiers ces formes de convivialité qui étaient les repas. L'Académie Goncourt, d'ailleurs, finalement, a poursuivi cette tradition avec ces traditionnels repas. Alors les repas étaient l'occasion de rencontres informelles. Alors on pourrait en citer plusieurs repas importants. Alors tout d'abord, les repas qui réunissent les écrivains dans le restaurant Magny, hein, à partir de 1862, un petit groupe d'artistes, d'écrivains plus exactement, vont se retrouver dans un restaurant qui était très gastronomique, qui se trouvait rue de la Contrescarpe Dauphine.
Donc les dîners Magny sont peut-être les plus célèbres, ceux qui sont restés le plus à la postérité.
Ils sont restés dans la postérité. Et c'est là qu'aurait été créé le fameux tourneau de Rossini, hein, chez Magny. Et donc il y a des rencontres entre écrivains où on retrouve aussi des savants, puisque les dîners Magny sont fréquentés par les Goncourt, par Flaubert, parfois par Georges Sand, par Marcelin Berthelot, par Ernest Renan. Alors ces dîners sont parfois surnommés les dîners des athées, parce qu'ils étaient caractérisés par un certain anticléricalisme, et ils seront de la part d'un écrivain catholique, Veuillot, qui écrit dans l'Univers, les victimes d'articles assez sévères. Donc les conversations portent sur des sujets très divers, sur la philosophie, sur la politique, sur la littérature, et on en a le compte-rendu assez détaillé dans le journal des Goncourt. Hein. Le journal des Goncourt, c'est une série de sténographies de conversations qui ont été prises pratiquement sur le vif et qui nous permettent de reconstituer ces convivialités, ces échanges. Alors à côté des dîners Magny, après 1870, on aura les dîners Brébant, Jules est mort, mais qui vont poursuivre dans un restaurant parisien également. Et puis on aura le dîner des auteurs sifflés, qui va rassembler essentiellement et régulièrement des auteurs célèbres, mais dont les pièces de théâtre ont été sifflées, Flaubert, Daudet, Zola, Edmond de Goncourt et Tourguenieff, et qui se retrouveront autour d'agapes devenues elles aussi rituelles. Hein. C'était, bon, je dirais, ces célibataires recevaient peu facilement chez eux, et pour se retrouver finalement, il fallait qu'ils trouvent des formules, et le restaurant en était une tout à fait adaptée.
Alors vous dites qu'il parle de philosophie, de politique, de littérature, certes, mais pas seulement, voici également ce qui se dit dans ces dîners.
Nous sommes à peu près au complet et la dispute est énorme sur toute chose. Boileau est bien plus poète que Racine, crie Saint-Victor. Bossuet écrit mal, affirme Flaubert. Renan et Taine mettent la Bruyère au-dessous de la Rochefoucauld. Nous poussons des cris de Pan. La Bruyère manque de philosophie, crie-t-il. Qu'est-ce que c'est que ça ? Renan se rabat sur Pascal, qu'il proclame le premier écrivain de la langue française. Un pur cul, Pascal, crie Gautier. Saint-Victor déclame du Hugo. Taine dit : généraliser la particularité, voilà tout Schiller. Particulariser la généralité, voilà tout Goethe. Flaubert, qui est verbeux ce soir encore plus que d'habitude, affirme que le coït n'est pas du tout nécessaire à la santé de l'organisme, que c'est un besoin que notre imagination crée. Taine lui fait observer que cependant, lui, qui n'est guère baiseur, quand tous les 15 jours ou les 3 semaines il se livre au coït, il est débarrassé d'une certaine inquiétude, d'une certaine obsession, qu'il sent sa tête plus libre pour le travail. Flaubert de répondre qu'il se trompe, que l'homme n'a pas besoin d'une émission séminale, mais d'une émission nerveuse, et que, comme lui, Taine baise au bordel. Il ne doit éprouver aucun soulagement, qu'il faut de l'amour, qu'il faut de l'émotion. On se bat là-dessus pendant tout le dîner. On fait le tour du monde sur la question. Madame Sand fait son entrée en robe fleur de pêcher, une toilette d'amour, que je soupçonne mise avec l'intention de violer Flaubert. On croirait voir Pasiphaé et Négriti.
Des paupières bleues sous mes doigts se dessinent. C'est ton cou que je tords, c'est moi que j'assassine. Notre monde était rien qu'un léger malentendu qu'on a pris au sérieux. Fallait-il en arriver là? J'ai toujours eu pour nous des projets plus heureux.
Alors, Pierre Dufieff, au-delà évidemment du plaisir de se retrouver, est-ce qu'il n'y a pas un autre rôle tenu par ces dîners, peut-être un rôle de reconnaissance réciproque entre ces écrivains qui finalement s'adoubent mutuellement en participant à ces mêmes festivités?
Oui, alors certainement, je dirais que la dimension relationnelle ne peut pas être laissée de côté, mais en même temps, les dîners sont quand même source de rivalité. Ils rassemblent des gens qui travaillent dans des secteurs assez différents, hein, qui ne sont pas finalement complémentaires. Je dirais que cette fonction d'adouber, on la trouvera plutôt dans d'autres lieux, comme le grenier des Goncourt. Hein. Le grenier sera un lieu où véritablement, à partir de 1885, Edmond adoubera véritablement ses disciples. Je pense que les dîners ont une dimension d'échange, effectivement, intellectuel, de discussion. Je ne suis pas sûr que ces discussions, d'ailleurs, aient jamais modifié profondément les positions des uns et des autres. Les points de vue restent les mêmes. Les oppositions, par exemple, entre Taine, Flaubert, les Goncourt sont définitivement stabilisées. Les oppositions avec Renan se creusent au fur et à mesure. Je pense que c'est un lieu de stimulation intellectuelle, certainement, un lieu d'échange, mais peut-être pas un lieu où la relation a pour but le carriérisme, certainement pas.
Alors les oppositions, justement parlons-en un petit peu, des oppositions par exemple entre Flaubert, reprenons-le comme exemple, et les Goncourt, quelles sont-elles? Parce que ça peut être des oppositions de personnes, mais c'est, j'imagine, davantage des idées sur la littérature qui les opposent.
Alors je pense qu'il y a quand même, avant les oppositions, il y a certainement des complémentarités extrêmement importantes, c'est-à-dire que Flaubert et les Goncourt ont la même conception de la sacralité de la littérature, de la nécessité du sacerdoce de l'écrivain. L'écrivain doit tout sacrifier à la littérature et pratiquer le travail. Ils ont la même conception du travail littéraire, ils ont la même conception de la nécessité de laisser la vie mondaine de côté autant que faire se peut lorsqu'on se consacre à la littérature, et que finalement l'essentiel absolu, c'est la littérature. Alors ça, c'est une première chose. Une autre chose, c'est le refus de la littérature commerciale. Flaubert et les Goncourt refusent la littérature nouvelle qui est en train de se créer, une littérature qui a pour but les grandes ventes. Ça sera la littérature de Daudet, ça sera la littérature de Zola, une littérature qui flatte le public. Peut-être que Goncourt aurait été bien content d'être plus reconnu par le public, mais enfin, il y a au départ un refus de cette hyper-médiatisation, une distance vis-à-vis des journaux, une distance forte vis-à-vis de la presse, donc qui les ancre dans des positions communes. Alors, par ailleurs, leur statut social est quand même assez voisin. Flaubert et les Goncourt appartiennent à cette génération des rentiers. Flaubert est plus riche que les Goncourt. Enfin, les Goncourt ont quand même une certaine aisance qui leur permet de vivre à l'abri des difficultés sans être obligés de se consacrer à des tâches rémunératives comme les tâches du journal. Alors, ce sont les points communs. Alors évidemment, un certain nombre de divergences apparaissent. Je pense que Flaubert est beaucoup plus attaché à la construction, à la cohérence de ses romans. Du Goncourt, on l'a rappelé hier, pratique une écriture de l'éclat, du morceau, du morcellement, du fragment. Flaubert se documente essentiellement à partir des livres. Avant d'écrire Salammbô, il va consulter des dizaines de milliers d'ouvrages. Du Goncourt ne pratique pas cette documentation livresque systématique, il pratique plutôt l'écriture à partir du document humain. Et sur le plan du style, Flaubert est très attentif, très sensible à la question des assonances, à la question de la sonorité de la phrase qu'il fait retentir dans son gueuloir. Il lit à voix très forte ses phrases pour voir si ça sonne bien, alors que les Goncourt sont peu attentifs à cette dimension. Et pour eux, le but de l'écriture est d'abord de leur fameuse écriture artiste, de rendre de manière aussi directe, aussi immédiate que possible, les sensations vécues.
Donc cela fait que Flaubert n'aime pas tellement leur roman La fille et Elisa, qu'il trouve sommaire et anémique, même s'il lui reconnaît aussi des qualités. Et puis de leur côté, les Goncourt n'aiment pas tellement Salammbô, parce qu'ils ont l'impression que c'est un petit peu trop académique finalement comme sujet. Est-ce qu'il y a une ligne de partage qu'on peut essayer de préciser encore ?
Écoutez, effectivement, à propos de Salammbô, les Goncourt vont exprimer. C'est un roman auquel indirectement ils ont participé, puisque ils ont documenté Flaubert, ils ont très longuement suivi la jeunesse de cette œuvre. Flaubert leur faisait ses confidences et il évoquait toutes ses difficultés à écrire. Les Goncourt lui ont fourni quelques petits documents. Mais effectivement, dans le journal, on lit des remarques très très critiques sur Salammbô, où il trouve que les frères Goncourt trouvent que l'effort a été excessif et qu'on reste effectivement dans une tradition peut-être un petit peu académique du roman historique, si ce n'est déjà par le sujet. Les Goncourt sont plus attachés dans leur roman à peindre le monde moderne, la modernité, la vie populaire du monde moderne, qu'à peindre l'Antiquité. Et pour eux, l'Antiquité est quelque chose qui est tout à fait négatif. Reprenant une formule de journal, l'Antiquité, c'est le pain des professeurs. Et ils s'opposent fortement à cet égard à Flaubert, et ils vont s'opposer aussi à leur ami Paul de Saint-Victor, qui est un grand tenant, un grand passionné de l'Antiquité.
Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même une certaine cécité, sans voir dans l'Antiquité l'âge d'or de l'histoire et de la culture, on peut quand même y voir un berceau d'une culture européenne, de la même manière que considérer, comme vous le disiez tout à l'heure, que Zola et Daudet étaient des écrivains qui ne cherchaient finalement que le succès, et peut-être un petit peu réducteur. Est-ce qu'ils en font trop volontairement, c'est leur outrance habituelle, ou est-ce qu'ils sont profondément convaincus de ce qu'ils disent?
Non, je pense que il faut nuancer. À certains moments, on trouve ces critiques, effectivement, et c'est un peu schématique de réduire leur vision des grands écrivains à ces critiques-là. Il y a de temps en temps, chez les Goncourt, même si la rivalité va l'emporter très rapidement. On a évoqué Zola hier. Il y a quand même chez eux, chez Edmond, puisque Jules est mort, il y a une admiration pour une certaine puissance de l'écriture zolienne. Ils sont pas insensibles non plus aux qualités d'écriture de Flaubert. Le texte qui a été lu tout à l'heure le montre bien, cette capacité justement que eux-mêmes n'ont peut-être pas toujours d'ailleurs à créer des personnages, à faire vivre des personnages. C'est vivant de papier que Flaubert réussit à ressusciter.
Alors terminons sur la question de la correspondance et des déjeuners, de la sociabilité, avec un dernier extrait du journal lu cette fois par Denis Manuel.
On déjeune à 10 heures. Au dernier coup, quand l'aiguille est sur 10 heures, chacun se met à table sans attendre. Madame Sand arrive avec un air de somnambule, reste endormie tout le déjeuner. Après le déjeuner, on va dans le jardin, on joue au cochonnet, ça la ranime. Elle s'assied et se met à causer. On cause généralement à cette heure-là de choses de prononciation, par exemple sur la prononciation de « ailleurs » et de « meilleur ». Mais le grand plaisir de causerie de la société, ce sont les plaisanteries stercoraires. Oui, la merde, l'épais, c'est le fond de la gaieté. Marshall a beaucoup de succès avec ses vents. Mais par exemple, pas le plus petit mot sur le rapport des sexes. Je crois qu'on vous flanquerait à la porte si vous y faisiez allusion. Le second jour, j'ai commencé à dire que si l'on ne parlait pas littérature, je m'en allais. Ah, littérature! Il semblait revenir de l'autre monde. Il faut vous dire qu'en ce moment, il n'y a qu'une chose dont on s'occupe là-bas, la minéralogie. Chacun a son marteau, on ne se voit pas sans. Enfin, j'ai déclaré que Rousseau était le plus mauvais écrivain de la langue française. Et ça nous a fait une discussion avec Madame Sand jusqu'à 1h du matin.
La Compagnie des Heures, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Est-ce qu'il y a des lettres aussi, Pierre Dufieff, à George Sand également? Est-ce qu'il y a une correspondance fournie entre eux?
Ah oui, je ne dirais pas une correspondance fournie, mais il y a un échange intéressant d'ailleurs entre George Sand, qui se fait la critique littéraire des Goncourt, et quand les Goncourt publient leur premier roman, Les Hommes de Lettres, elle leur écrit une lettre admirative et un véritable encouragement pour ces débutants qui sont reconnus par une romancière, un écrivain très très célèbre. Hein, et ça leur fait chaud au cœur de recevoir cette lettre. Et George Sand leur dit, je résume, c'est bien touffu, mais par la suite vous simplifierez. Et lorsque les Goncourt publient leur roman suivant, leur roman de l'hôpital, leur premier roman naturaliste, entre guillemets, Sœur Philomène, ils vont écrire une œuvre effectivement beaucoup plus simple, hein, beaucoup plus, je dirais, organisée, mieux organisée, et le conseil de George Sand, dans une certaine mesure, avait été entendu. Hein, et donc, la relation avec George Sand, on en a un peu parlé hier, est une relation assez complexe, et là encore, on voit le double discours de la correspondance et du journal. Dans la correspondance, il y a la chaleur, il y a l'échange aimable, il y a les conseils. Et dans le journal, il y a effectivement des tableaux qui sont souvent bien critiques, hein, de cette George Sand qui apparaît souvent endormie, hein, assoupie, attirée sexuellement par Flaubert. Mais on l'a dit hier aussi, les Goncourt conservent intact leur admiration pour les mémoires de George Sand.
Donc on se rend de plus en plus compte au fur et à mesure que nous avançons dans les épisodes de cette série que c'est le milieu littéraire qui intéresse les Goncourt. Leur roman « Des hommes de lettres » que vous venez de citer, Pierre Dufieff, parle justement de ces écrivains qui leur sont contemporains comme Gautier ou Banville, alors évidemment sous des pseudonymes. Donc il y a aussi toute la dimension roman à clé qu'on retrouve dans leurs livres, y compris dans le livre Charles de Mailly sur les intellectuels de leur temps. Voilà, tout converge finalement dans leur vie ce milieu littéraire et intellectuel parisien qu'ils adorent détester aussi d'ailleurs.
Oui, alors je dirais tout converge dans les témoignages qu'ils portent, mais leur roman et leur roman naturaliste notamment ne vont pas du tout s'intéresser à ce milieu littéraire parisien, puisque ce sont des romans qui vont dépeindre les marges de Paris, les marges de la ville, et qui vont dépeindre les marginaux. Donc là, on n'est plus du tout dans le milieu littéraire parisien, même si le milieu littéraire comporte une bohème qui est présente dans Charles de Mailly et les Hommes de Lettres, mais l'œuvre romanesque des Goncourt nous emmène sur bien d'autres rives.
On peut publier des Assommoirs et des Germini Lacerteux et agiter et remuer et passionner une partie du public, oui. Mais pour moi, le succès de ces livres ne sont que de brillants succès d'avant-garde, et la grande bataille qui décidera de la victoire du réalisme, du naturalisme, de l'étude d'après nature en littérature, ne se livrera pas sur le terrain que les auteurs de ces deux romans ont choisi. Le jour où l'analyse cruelle que mon ami Zola, et peut-être moi-même, avons apportée dans la peinture du bas de la société, sera reprise par un écrivain de talent et employée à la reproduction des hommes et des femmes du monde dans des milieux d'éducation et de distinction, ce jour-là seulement, le classicisme et sa queue seront tués. Ce roman réaliste de l'élégance, ça avait été notre ambition à mon frère et à moi de l'écrire. Le réalisme, pour user du mot bête, du mot drapeau, n'a pas en effet l'unique mission de décrire ce qui est bas, ce qui est répugnant, ce qui pue. Il est venu au monde aussi, lui, pour définir dans de l'écriture artiste ce qui est élevé, ce qui est joli, ce qui sent bon, et encore pour donner les aspects et les profils des êtres raffinés et des choses riches.
Bien que ces vaches de bourgeois les appellent les filles de joie, les appellent les filles de joie, c'est pas tous les jours qu'elles rigolent. Parole, parole, c'est pas tous les jours qu'elles rigolent.
Extrait de la préface aux frères Zemgano par Edmond Goncourt et lu par Robert Martin. Alors le réalisme, le naturalisme, c'est pas seulement le naturalisme à la Zola, c'est pas seulement les classes basses entre guillemets, c'est aussi, nous explique ici Edmond Goncourt, de pouvoir s'intéresser à toutes les classes sociales et les plus élevées également, Pierre Dufieff.
Oui, bah, il faut quand même dire que ceci est à resituer dans le cadre du combat, de la lutte entre Zola et Goncourt, ou plutôt entre Goncourt et Zola. Hein. Goncourt essaie constamment de dépasser Zola et d'envisager des perspectives nouvelles qui permettront de faire de Zola un auteur un peu archaïque. Alors, les Goncourt eux-mêmes ont écrit quand même de grands romans consacrés au peuple, Germiné Lacerteux en 1865, Sœur Philomène dans une moindre mesure en 1861, et Edmond poursuit quand même encore en 1877 avec La fille Elisa, qui est un roman qui met en scène une prostituée, hein, et cette prostituée commet un crime, et à la suite de ce crime, elle est enfermée en prison, et ce roman devient le roman de la prisonnière. Donc, jusqu'à 1877, quand même, Edmond de Goncourt pratiquera une certaine bafonmanie, hein. Et sentant que Zola le dépasse, hein, le succès de la fille Elisa en 77 a eu un succès relatif, hein, même un grand succès, L'Assommoir a un bien plus grand succès encore. Et Edmond se dit, maintenant il faut changer de voie. Et il écrit la préface des frères Zemgano, dans laquelle bon, il explique qu'effectivement le réalisme des bas-fonds a vécu, hein, qu'il a fait son temps et qu'il faut envisager d'autres hypothèses, hein, d'autres perspectives.
Donc c'est un peu par dépit alors, finalement, qu'il dit ça.
C'est à la fois par dépit, et je pense chez les Goncourt, il y a un souci constant de novation. Hein, il y a le désir d'évoluer, de faire du neuf. Hein. Alors d'être des précurseurs, certainement, hein, il se situe constamment, et c'est un peu ridicule, en précurseur absolu de toutes les écoles nouvelles, mais il y a aussi le désir de ne pas s'ancrer définitivement dans une manière unique. Et je dirais que ça, c'est un des intérêts de leur œuvre, hein, c'est qu'on les voit constamment évoluer, constamment s'adapter, constamment changer, hein, et leur marque, finalement, est multiple, hein, si l'on laisse de côté l'écriture artiste, finalement, qui signe leur style de manière assez durable.
Mais alors, qu'est-ce qui fait, selon vous, que en 1877, Zola écrase tout avec L'Assommoir, que c'est un succès incroyable, qui crée donc une déconvenue pour Edmond de Goncourt, alors que Germiny Lacerteux, ou La fille Elisa, dans une veine un petit peu similaire, et qui pourtant précède L'Assommoir, finalement, ne trouve pas son public?
Alors, ils trouvent un public restreint. Ils vont trouver un public d'amateurs éclairés, de critiques. Zola va quand même reconnaître en Edmond de Goncourt le précurseur, avec le précurseur de Thérèse Raquin et le précurseur du naturalisme, entre guillemets, avec Germiny Lacerteux. Hein. C'est une œuvre qui n'a pas la puissance épique de celle de Zola, hein. Ça n'a pas la puissance épique de L'Assommoir. Ça, malgré tout, les Goncourt n'ont pas de souffle. Hein. Ce sont des auteurs du détail. Ce sont des auteurs qui pratiquent la micromanie, hein, l'observation du minuscule, alors que Zola est dans la macromanie, il est dans l'emphase, il est dans la puissance. Et je pense que cette puissance a entraîné davantage de public que les observations détaillées et minutieuses et artistes des Goncourt.
Autrement dit, les Goncourt se perdent un peu dans la subtilité des détails de leur écriture artiste et perdent de vue l'histoire à raconter, c'est-à-dire le roman dans sa globalité.
Alors, ils sont capables quand même de construire une intrigue. Hein. Dans certains de leurs romans, Les Hommes de Lettres, Charles de Mailly, Manette Salomon, dans une certaine mesure aussi, l'intrigue est foisonnante, un peu complexe. Les romans naturalistes des Goncourt, le roman, appelons ça naturaliste, hein, pour simplifier, le roman naturaliste se caractérise par, quand même par un souci de la construction, hein, par des intrigues relativement simples, un début un peu à la manière balzacienne, in medias res, les choses sont saisies tout à coup dans un... Bon, dans leur immédiateté, puis ensuite nous avons un retour en arrière systématique, et puis ensuite l'histoire reprend. Et bon, ce type de construction, bon, malgré tout, organise le récit bon, de manière assez, assez cohérente.
Mais ce qu'il préfère, c'est peut-être à la fin de décrire des images. C'est quand même une écriture très très visuelle. Et du coup, on imagine que s'ils avaient vécu du temps du cinéma, c'est peut-être des gens qui auraient fait de très belles images.
Absolument. Absolument. Je pense que l'art du gros plan, hein, est chez eux constamment pratiqué. La fille Elisa commence par une scène de tribunal. Le soir, la nuit venue, les Goncourt décrivent les juges, décrivent dans la semi-obscurité qui gagne la salle, ils décrivent l'accusé. Bon, c'est véritablement un gros plan cinématographique, hein. Le début de René Mauprin, une jeune fille qui se baigne dans la Seine, on ne sait pas exactement de quoi il s'agit, mais là encore un gros plan qui suscite l'interrogation et les questions du lecteur. Germini Lacerteux, de la même manière, ils ont véritablement un art de l'image, un art de la description qui est pré-cinématographique.
Dimanche 22 août 1875. Aujourd'hui, je vais à la recherche de documents humains aux alentours de l'école militaire. On ne saura jamais, avec notre timidité naturelle, notre malaise au milieu de la plèbe, notre horreur de la canaille, combien le vilain et laid document avec lequel nous avons construit nos livres nous a coûté. Ce métier d'agent de police consciencieux du roman populaire est bien le plus abominable métier que puisse faire un homme d'essence aristocratique. Mais l'attirant de ce monde neuf, qui a quelque chose de la séduction d'une terre non explorée pour un voyageur, puis assez vite la tension des sens, la multiplicité des observations et des remarques, l'effort de la mémoire, le jeu des perceptions, le travail hâtif et courant d'un cerveau qui moucharde la vérité, grise le sang-froid de l'observateur et lui font oublier dans une sorte de fièvre les duretés et les dégoûts de son observation.
Compagnie des œuvres avec cet extrait du journal d'Edmond Goncourt dans une lecture de Fernand Ledoux. Alors à quel point font-ils des enquêtes sur leur sujet, j'ai envie de dire carnet en main, Pierre Dufieff?
Alors ils font des enquêtes, ce carnet en main, bon, le passage qui vient d'être cité le montre bien, lorsqu'ils écrivent La fille Elisa, bon, ils vont se promener dans les quartiers populaires de l'école militaire pour bon, reconstituer le décor qu'ils vont présenter, hein. Les bordels militaires après la guerre de 70 s'étaient multipliés. Ils font des enquêtes carnet en main lorsqu'ils écrivent leur roman de l'hôpital, hein, Sœur Philomène, par le relais de Flaubert, ils sont mis en relation en 1860 avec des médecins, et ils vont assister à quelques scènes hospitalières, la visite de Velpeau à l'hôpital de la Charité, la promenade du soir, ils assistent à un repas d'interne. Donc il y a chez eux, mais comme ils le notent dans le journal, nous avons fait 10 heures d'observation, hein, pour écrire ce roman. Donc c'est à la fois dire qu'ils ont une capacité d'observateur extrêmement, extrêmement grande, puisqu'en 10 heures, ils réussissent à saisir un milieu, mais ils saisissent, disent-ils, plus un décor, finalement, que des personnages. Le carnet d'enquête, pour eux, n'est quand même peut-être pas essentiel. Ce qui leur importe surtout dans leur roman, c'est de réinvestir des documents intimes, hein, des documents vécus, leur propre histoire. Hein, ils pratiquent vraiment un réalisme de proximité. Ils ne vont pas chercher à l'extérieur, comme le fait Zola, une information qui leur est étrangère. Ils essaient de nourrir leurs œuvres de sentiments, de choses observées, de choses vécues. Un exemple particulièrement frappant, lorsque la fille Elisa meurt, Edmond va réinvestir la fin de l'agonie de son frère Jules dans cette incapacité qu'elle a de prononcer un mot. Jules est mort aphasique. Donc constamment, ils réinvestissent des personnages, ils réinvestissent des souvenirs vécus, heureux ou la plupart du temps malheureux, dans les différents personnages qu'ils dépeignent.
Donc dans cet intérêt de l'ensemble des écrivains naturalistes, encore une fois avec tous les guillemets qui s'imposent, et donc des Goncourt pour toutes les classes sociales et entre guillemets les basses classes, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un mépris envers eux ou envers elles, une espèce de haine du peuple, comme on l'a entendu un peu dans l'extrait du journal qui était la lecture précédente, ou est-ce que au contraire on est quand même finalement dans une sorte de réhabilitation par un intérêt appuyé justement à des personnes qui se retrouvent dans les classes les plus défavorisées de la société?
Alors, bon, les Goncourt veulent dépeindre le peuple de manière très réaliste. Ils s'opposent à Victor Hugo. Lorsque Victor Hugo écrit Les Misérables et qu'il le lise en 1862, il considère que ça n'est pas une peinture du peuple, que c'est une peinture du peuple totalement idéalisée et totalement fausse. Donc ils vont peindre le peuple dans sa réalité, dans sa misère, dans sa physiologie. L'importance du corps a déjà été évoquée et soulignée. C'est un des traits du naturalisme. Alors, le peuple, pour eux, c'est effectivement le peuple vu par des bourgeois. On peut constater que le peuple qu'ils envisagent, c'est le monde des services. C'est une domestique dans Germinie la Certeux, c'est une religieuse hospitalière d'origine très populaire dans Sœur Philomène, c'est une prostituée dans La fille Elisa. Et c'est donc un peu par le biais du service que s'établit un rapport très problématique avec le peuple. Ce rapport est marqué par des dysfonctionnements. Germinie est l'histoire d'une fille de l'aristocratie, qui est la projection un petit peu des deux frères, une vieille fille de l'aristocratie, dont la vie domestique est détraquée par les crises d'une domestique nymphomane. Donc il y a une distance quand même vis-à-vis de ce peuple qui est proche d'eux. Il y a chez les Goncourt sans doute un certain paternalisme. Va les amener à adopter vis-à-vis du peuple une attitude quand même de compassion, une attitude de charité. Dans Sœur Philomène, il prône quelques mesures entre guillemets sociales. Il considère qu'il faudrait augmenter le salaire des infirmières. Il considère qu'il faudrait mieux aérer les salles d'hôpital. Dans Germinie la Certeux, il considère que la condition des domestiques et les misérables chambres de bonnes qui s'habitent est difficilement admissible. Dans La fille Elisa, il considère que le système de la prison tel qu'il commence à être pratiqué, non pas l'isolement cellulaire, mais les prisons en centrale où on impose aux détenus le silence, est une mesure absolument inhumaine. Donc il y a chez eux une sorte de compassion ponctuelle vis-à-vis du peuple qu'on ne peut pas quand même laisser sous silence.
Et puis comme dans L'Assommoir, quoique d'une manière différente, il s'intéresse beaucoup à la question de l'alcool. Je vous propose d'écouter un dernier extrait du journal où il est question d'alcool et aussi de rêve.
La maîtresse est là, à côté, couchée et saoule d'absinthe. Je l'ai grisée et elle dort. Elle dort et elle parle. J'écoute, retenant mon souffle. C'est une voix singulière et qui fait une émotion étrange, presque peur, que cette voix involontaire et qui s'échappe. La parole sans la volonté, la voix du sommeil, une voix lente, et qui a la coupe, l'accent et le poignant des voix de drame au boulevard. Et d'abord, peu à peu, mot à mot et souvenir à souvenir, comme si avec les yeux du souvenir, elle regardait dans sa jeunesse, voyant les choses et la figure des gens sortir sous la fixité de son attention de la nuit où le passé dort. Oh, il l'aimait bien. Oui, on disait que sa mère avait eu un regard. Il avait des cheveux blonds, mais ça ne se pouvait pas. Nous serions bien riches à présent, n'est-ce pas? Si mon père n'avait pas fait ça. Mais c'est fait, tant pis. Je ne veux pas le dire. Oui, Il y a comme une terreur à être penché sur ce corps, où tout semble éteint et où la vie animale seule semble veiller. Et à entendre ainsi le passé y revenir comme un revenant dans quelque chose d'abandonné. Et puis ces secrets prêts à jaillir et qui s'arrêtent machinalement, ce mystère d'une pensée sans conscience, cette voix dans cette chambre noire, c'est quelque chose d'effrayant, comme un cadavre possédé par un rêve.
Alors il y a, et comme vous l'avez également souligné, Pierre Dufieff, une atmosphère assez flottante. C'est le mot que vous utilisez dans un texte, Les Goncourt, peintre des mondes flottants, qu'on peut lire dans une revue Europe de décembre 2015. Qu'est-ce que c'est que ce monde flottant des Goncourt qu'on entend un petit peu dans l'extrait qu'on vient d'écouter, lu par Denis Manuel, où il y a quelque chose d'à la fois un peu effrayant dans cette description de la maîtresse endormie, et puis quelque chose d'un peu brumeux comme cela.
Oui, alors effectivement, ce texte est tout à fait intéressant. Et il nous ramène à la question évoquée précédemment de ce réalisme de proximité, de ce document intime, puisque ce texte va nourrir Germini Lacerteux. Hein. Il va inspirer la scène de rêve dans Germini Lacerteux. Alors les Goncourt sont très attachés, effectivement. Ce sont des peintres des états intermédiaires. Edmond se présente souvent en train de fumer et il évoque dans le journal la griserie que suscite le tabac. Hein. Il est grand consommateur de tabac. Jusque vers la fin de sa vie, il arrête dans les années 90. Il évoque aussi les états que créent les petits verres d'alcool. Hein. Ce monde dans lequel les lignes s'effacent. Les Goncourt sont très intéressés par le vaporeux.
Hein. La mollesse aussi, est-ce qu'on pourrait utiliser ce mot-là ?
Oui. Il y a effectivement chez eux, à certains moments, et chez leurs personnages, la chose apparaît souvent, hein, cet état d'ennui qu'ils appellent le dormichonnement, où on est, je dirais, on se laisse aller dans un demi-sommeil paresseux. Hein, et la plupart, beaucoup de personnages des Goncourt hein, souffrent de cette maladie de la volonté qui sera étudiée par Ribot, hein, et ils sont en proie à une certaine aboulie, une incapacité à vouloir. Germini Lacerteux va se laisser aller, la fille Elisa également, la prostituée est par nature définie à cette époque comme un personnage veule. Hein. Il y a effectivement, non pas un éloge de la paresse, mais il y a une évocation de la paresse, et il y a à certains moments, chez Edmond, et surtout après la mort de Jules, une très grande présence dans le journal de ces états, de laisser aller, où finalement on ne réagit plus beaucoup vis-à-vis des choses. Et il faudra d'ailleurs que Daudet intervienne, Flaubert aussi, hein, pour le ramener à la littérature et pour le ramener au travail. Hein. Edmond se laissait aller, bon, il jardinait un petit peu, etc., il rêvassait, et il ne travaillait plus, en tout cas, le roman était oublié.
Voilà, et ce sont donc des écrivains aussi d'atmosphère et des écrivains poètes, on l'a bien compris en vous écoutant. Merci beaucoup Pierre Dufieff, je rappelle que vous êtes notamment l'auteur avec Jean-Louis Cabanès d'une biographie des Goncourt disponible aux éditions Fayard. Tout de suite, la chronique en partenariat avec Arte et les romans scandaleux d'Aldous Huxley et de George Orwell.
La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Les grands romans du scandale, c'est une suite de 6 documentaires sur Arte et sur Arte.tv qui racontent l'histoire d'œuvres vilipendées à leur parution et passées ensuite au statut de chef-d'œuvre. On raconte également leurs auteurs. Aujourd'hui, c'est Caroline Benaroche qui vient nous parler des dystopies de Orwell et Huxley, 1984 et Le meilleur des mondes, sujet du documentaire diffusé ce soir à 22h45 et réalisé avec Philippe Calderon. Bonjour Caroline Benaroche.
Bonjour.
Alors, qu'est-ce qui est scandaleux justement dans ces deux romans, 1984 et Le meilleur des mondes ?
Ben, déjà, ce sont des dystopies, c'est-à-dire que ce sont des romans qui présentent le monde tel qu'on le redoute. Et donc, quand on les lit, ces sociétés qui sont décrites ont beau paraître impossibles, impensables, on y trouve des points communs avec la nôtre. Et c'est ce qui en fait finalement des livres scandaleux, parce qu'ils remettent en question nos sociétés et en premier lieu notre rapport à l'autorité. D'ailleurs, à chaque fois que quelque part dans le monde, le pouvoir politique glisse vers une forme de totalitarisme, on repense immédiatement à Orwell et Huxley. Le retour des nationalismes, le règne des big data, des réseaux sociaux, etc., nous renvoient toujours à leurs prédictions. Et donc c'est ce qui en fait quelque part des romans scandaleux, parce qu'ils décrivent des univers qui sont absolument terrifiants. Dans 1984, Orwell imagine un monde où la liberté n'est plus, où Big Brother surveille nos moindres pensées. Dans Le meilleur des mondes, Huxley, lui, imagine un régime totalitaire qui est conditionné par le plaisir et pas par la souffrance. Et donc ce serait beaucoup plus difficile d'en échapper, parce que comment est-ce qu'on va se rebeller contre le plaisir finalement? Et donc ce sont des romans qui grattent là où ça fait mal. Ils ont créé ce qu'ils appellent la prophétie, enfin ce que certains romanciers appellent la prophétie d'auto-alerte. En fait, c'est une vision qui inspire des dizaines de millions de personnes pour faire en sorte que ce qu'ils ont imaginé n'arrive pas. Voilà, donc c'est, je pense, ce qui fait que ce sont des livres scandaleux. Ils nous font réagir.
Mais alors, comment il s'est manifesté le scandale à la parution de ces romans ?
Alors, pour être honnête, 1984, qui a été publié en 49, a été extrêmement bien accueilli, immédiatement considéré comme un chef-d'œuvre. Churchill lui-même en a fait la promotion et a raconté l'avoir lu deux fois de suite. Donc, le livre n'a pas vraiment créé de scandale, parce qu'en fait, il dénonçait un système, le communisme, qui était lui-même dénoncé à l'époque, au sortir de la Seconde Guerre mondiale et au début de la guerre froide. En revanche, Le meilleur des mondes, lui, a été édité en 1932, et il a créé un immense scandale dans l'Angleterre victorienne, qui était très puritaine à l'époque. Le roman a été salué par la critique, mais plusieurs pays l'ont accusé de prôner la débauche. Parce que dans Le meilleur des mondes, l'amour est libre, le sexe est omniprésent. Si on veut être un bon citoyen, il faut même multiplier les conquêtes amoureuses. Bernard Marx, le héros du roman, se vante d'avoir couché avec 6 femmes en une semaine et ajoute même qu'il aurait pu en avoir davantage. Donc voilà, il y a la drogue aussi. Les citoyens du meilleur des mondes prennent du soma, une drogue artificielle, qui les plonge dans un sommeil paradisiaque. Et ça a créé un immense scandale. Au point même que l'Irlande et l'Australie ont exigé que l'on brûle les livres pour que personne ne puisse les lire.
Alors qu'est-ce que vous avez appris vous-même, Caroline Pénaroche, en faisant ce documentaire ?
J'avais lu en fait ces romans au lycée, j'en avais gardé un souvenir assez fort, mais je ne savais pas à quel point ces œuvres avaient été nourries par la vie de leurs auteurs. Et c'est sans doute ce qui m'a le plus intéressée en fait, c'est de découvrir leur parcours. Apprendre par exemple qu'Orwell comme Huxley ont été scolarisés à Eton, le célèbre collège anglais très huppé. Huxley a été élève avant de devenir professeur, et même le professeur d'Orwell qui lui était boursier et désargenté. Et donc ce qui a été intéressant, c'est de se rendre compte qu'en fait, Eton est une sorte de matrice, on va dire, qui les a à la fois étouffés, mais aussi inspirés dans la création de leur société hiérarchisée, où les gens sont prédestinés, dont on ne peut s'échapper, etc. Donc ça m'a beaucoup intéressé, voir les ponts, les liens qui existaient, en fait, entre leur propre expérience et les mondes de leurs romans.
Et rapidement, qu'est-ce que vous aimeriez que le spectateur retienne de votre documentaire ?
Qu'il faut les lire ou les relire, parce que à chaque étape de sa vie, et puis évidemment aussi à chaque époque, on trouve quelque chose en fait qui nous aide, qui nous apprend à percevoir, à comprendre, et puis peut-être aussi à anticiper le monde qui nous entoure. Donc voilà, ce sont des œuvres qui ont une sorte de permanence, qui traversent les époques tout en restant extrêmement contemporains et qui ne cessent jamais de nous interpeller. Il y a une phrase, le documentaire se termine sur une phrase du meilleur des mondes. Pour résumer, Huxley dit que la société moderne nous fait aimer notre condition d'esclave, qu'elle nous donne un sens illusoire qu'on est aux manettes, alors qu'en fait on s'autorise à se faire manipuler, à penser qu'on est libre alors qu'on ne l'est pas. Et cette phrase-là, cette pensée, elle ne me quitte plus depuis ce documentaire. Donc voilà, il faut les lire ou les relire, parce qu'il reste toujours quelque chose de ces romans.
Oui, ben c'est ce qu'on va faire, les lire et les relire. On va aussi regarder votre documentaire. Caroline Benaroche, George Orwell, Aldous Huxley, 1984, ou Le meilleur des mondes, un film réalisé avec Philippe Calderon, ce soir, 22h45 sur Arte. Merci. Compagnie des œuvres, c'est Laurence Millet, Laurence Genepin, Vanessa Prévost, Didier Pinot, Jean-Guilain Meige et Romain Billet. Demain, 4e et dernier épisode de notre série. En première partie, nous parlerons du rapport à l'art des Goncourt et en seconde partie, de leur rapport aux femmes.